Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téterait pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de 2 enfants, l'un allaité 1 année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement, et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez 1 minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. J'accueille aujourd'hui dans le podcast une profession que j'ai peu interviewée jusque-là. J'ai nommé les orthophonistes. Orthophonie et allaitement, ce sont deux choses qui peuvent se conjuguer, car quand votre bébé présente une problématique de succion et donc d'alimentation, l'orthophoniste peut bien plus souvent qu'on ne le pense intervenir pour l'aider à la rétablir. C'est donc Angèle Depémy, orthophoniste spécialisée dans la prise en charge des difficultés d'alimentation en pédiatrie et des troubles de l'oralité comme ils sont très souvent nommés, qui répond à mes questions aujourd'hui. Comment son métier d'orthophoniste peut intervenir dans les troubles de la succion chez mon bébé allaité, mais aussi mon bébé biberonné? Quels sont les signes et symptômes que je dois repérer chez mon bébé déjà tout petit et qui m'amèneraient à consulter un orthophoniste? Comment se déroule une séance? Qu'est-ce que je peux en attendre? Vous aurez toutes les réponses dans cet épisode indispensable. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Angèle, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour.
Angèle, tu es orthophoniste et je vais te demander de te présenter. Ça fait un moment que je dois faire un épisode. Je dois, parce que c'est le mot, c'est un devoir que de faire un épisode avec une orthophoniste. On a reçu plusieurs fois Marie Ruffier qui est ergothérapeute. La différence est un peu fine entre les deux. Voilà, on en reparlera rapidement pour dire que finalement, c'est plutôt les formations qui comptent que le métier de base. Mais en tout cas, voilà, ça faisait longtemps que je voulais interroger une orthophoniste sur tous ces sujets autour de la succion et de l'allaitement. Question numéro 1, Angèle, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, donc je suis Angèle Depémy, je suis orthophoniste depuis 2009. Initialement, j'ai travaillé à l'hôpital, donc en ORL, en cancérologie, pour être plus précise. Donc, je me suis depuis toujours intéressée vraiment à toute cette sphère orale. Et puis, je suis aussi maman de 2 enfants, de 9 et 7 ans. Et comme souvent, la maternité nous fait changer un peu notre regard sur les choses. Et voilà, depuis l'arrivée de mon deuxième garçon, je suis uniquement libérale. Et je me suis vraiment, j'ai plongé dans le monde de la pédiatrie, de l'allaitement et des troubles alimentaires. Donc, maintenant, j'ai concentrer ma pratique sur ça.
Ok, et tu te trouves en région parisienne?
C'est ça.
Vers Créteil?
Exactement.
Ok, donc voilà, si vous avez la chance de la voir autour de vous, vous savez, si vous êtes vers Créteil, c'est une chance. La première question que j'ai envie de te poser, enfin la deuxième du coup, mais que j'ai envie de te poser de question, Angèle, c'est qu'est-ce que c'est les motifs de consultation attenant à l'allaitement que toi tu reçois dans tes séances?
De façon nette, les patients, les petits bébés que je vais recevoir, c'est très très rare qu'ils viennent en première intention me voir. D'abord parce que, comme on le sait, c'est pas simple d'avoir accès à l'orthophonie. Mais on n'est pas le professionnel de référence de proximité. Les bébés, ils ont déjà vu une sage-femme, ils ont vu un pédiatre. Donc, bien souvent, ils sont orientés donc par un médecin, pédiatre, ORL, ou par une sage-femme, ou par un thérapeute manuel, un ostéo, un chiro ou une consultante en lactation. Vraiment, bien souvent, ils ont déjà vu au moins une de ces personnes-là avant de me voir.
Ouais, qui s'est dit que...
Il y avait quelque chose autour de la succion, bien entendu. Donc, le motif, ça va être un bébé qui n'a pas une succion efficace, donc qui ne peut pas téter en quantité satisfaisante sans trop d'efforts, en fait.
Ouais, ou en qualité.
Ou en qualité, donc sans aide. Voilà. Donc, l'idée, ça va être, nous, notre travail d'évaluer, de pouvoir voir est-ce que le bébé, qu'est-ce qui pêche en fait dans cette succion, qu'est-ce qui dysfonctionne, et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Donc les motifs, c'est souvent un bébé qui ne tète pas suffisamment, qui se fatigue au sein, qui n'arrive pas à prendre le sein en fait tout simplement. Un bébé qui a une mauvaise prise de poids, un bébé dont la succion, on voit bien que ça se passe pas bien, le lait coule, il s'étouffe, on voit que le bébé c'est difficile pour lui. Et ça c'est vraiment les premiers motifs. Ça peut être aussi... des bébés qui n'arrivent pas à prendre le biberon. Hein.
D'accord. Voilà, ouais, ça aussi, on parle de l'allaitement. Voilà. La problématique de succion peut être exactement. Problématique au sein comme au biberon.
Exactement. Mmh. Et on a souvent des bébés, des parents qui appellent autour justement de la reprise du travail, des mamans qui essayent d'introduire le biberon et pour qui ça ne passe pas du tout. Quand on creuse, on voit qu'il y avait des problématiques autour de l'allaitement au sein dès le départ, mais des choses avaient pu se mettre en place sans avoir d'avis orthophonique. Donc ça, c'est les motifs de consultation les plus courants.
Ouais, donc un bébé qui n'arrive pas à changer d'outil, par exemple, ça Exactement. Peut aussi être un motif de consultation chez toi.
Tout à fait.
Donc toute problématique liée à la succion du bébé qui aurait l'air désorganisé, finalement.
Exactement.
En fait, les problématiques d'allaitement, globalement, peuvent tout un peu se retrouver chez l'orthophoniste pour le bébé. Comment ça se déroule une séance ?
L'orthophonie, comme je l'ai dit, on est soumis à la prescription médicale. C'est organisé de façon précise. La première séance, c'est une séance de bilan orthophonique. Donc, c'est une séance qui est plus longue, voilà, où on prend le temps vraiment, en gros, c'est évaluer la situation. Un grand temps d'écoute des parents, moi, qui est très, très, très important pour moi, parce que ça nous permet de replacer la problématique de succion dans l'histoire de l'enfant en global. Et je pense que ce temps d'écoute, il est vraiment important pour les parents et pour nous, c'est une mine d'informations, en fait. Donc, on va discuter, bien sûr, de la grossesse, de l'accouchement, de comment ça s'est passé pour l'arrivée de ce petit bébé. L'alimentation, c'est quand même un sujet très, 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 très compliqué.
Et puis, c'est the sujet.
Enfin, et c'est pas souvent, de la mécanique. Voilà.
On a tous envie que nos enfants bouffent correctement.
Exactement. Et ce que je veux dire, c'est ça. Je veux pas qu'on voit l'orthophoniste comme le garagiste, en fait, qui est en train d'évaluer est-ce que la tuyauterie fonctionne bien, j'en sais rien, mais... En fait, voilà, prendre l'histoire aussi. Je pense que ça, c'est très important. Donc, il y a un vrai temps d'échange qui commence la consultation. Pendant ce temps d'échange, forcément, l'œil de l'orthophoniste est quand même très actif. Le bébé est là, donc forcément, on ne peut pas s'empêcher d'observer de façon qualitative ce qui se passe. Est-ce que le bébé est éveillé? Est-ce qu'il est endormi? Est-ce qu'il est tout tendu, les poings serrés? Comment il respire? Comment est sa bouche? Voilà. Tout ça, ça nous donne déjà, sans avoir, entre guillemets, rien fait de concret sur le bébé, beaucoup de sens. Et ça nous donne déjà des pistes, en fait, de ce qui peut dysfonctionner. Ensuite, si on a la chance d'avoir le bébé qui est disponible pour ça, on va bien sûr vouloir l'observer en situation, que ce soit au sein ou en biberon, voir comment il se débrouille. Comment il fait, en fait? Donc, les parents vont nous dire, il y a ça, ça, ça que moi j'ai pu observer. Nos questions vont pouvoir aussi éclairer ce qui semble dysfonctionner, mais il n'y a rien qui peut remplacer le fait de le voir en situation.
Non, c'est sûr.
C'est pour ça que je disais qu'il faut quand même un temps assez long pour avoir le temps de pouvoir faire tout ça. Et ensuite seulement, on va pouvoir observer le bébé, vraiment analyser, examiner le bébé, si je puis dire. Donc, moi, j'aime bien pouvoir l'examiner en situation, voilà, au sol, me mettre à sa hauteur au sol. Voir comment il est quand il est posé au sol, en fonction de son âge, comment il se retourne, voilà, comment voilà, il est dans son corps, en fait,
son évolution.
Exactement, comment il est dans son corps. Et bien sûr, évaluer précisément, puisqu'on parle de succion, forcément, on va examiner la bouche, on va examiner tout ce qui nous sert à bien manger, à bien téter, en fait, donc la langue, les lèvres, bien sûr, les joues, enfin, voilà, examiner cliniquement, anatomiquement. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient expliquer que cette succion soit particulièrement compliquée. Et puis aussi d'un point de vue fonctionnel, comment ça se passe une succion donc avec le doigt pour évaluer et voilà, compléter en fait mon examen des autres éléments que j'ai pu avoir.
Est-ce que d'ores et déjà, le premier truc que tu regardes, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et je pense que c'est une bonne chose, c'est est-ce que ce bébé respire par la bouche ou
par le nez ? Bien sûr. Mais en fait, le bébé, j'ouvre la porte, j'accueille la famille et mon regard est déjà, je vois ça, comment est sa bouche, comme il est, comme il respire, bien évidemment, bien sûr. Je regarde aussi s'il semble douloureux, parce que j'ai vu beaucoup de bébés où on s'est dit il y a un problème de succion, et en fait oui, mais parce qu'en fait ils ont mal, ils ont un reflux, et en fait c'est autre chose, la priorité, en fait.
Ouais.
Donc oui, bien sûr, je regarde ça, parce que notre rôle, bien sûr, aussi, c'est de référer, en fait.
Comme
si c'est un problème comme tout le monde, médical, eh bien, il faut qu'on en parle avec ce médecin, qui peut-être le médecin n'a pas pu voir ça, en fait. Mm-hmm. Voilà.
Oui, c'est l'avantage d'avoir une consultation plus longue comme ça au démarrage.
Exactement.
C'est de pouvoir voir les choses avec un œil un peu plus lointain, parce que c'est vrai que le médecin, il les voit.
Très, très
entre
proche.
Les vaccins à faire, les ceci, les cela.
Exactement.
Finalement, les consultations sont courtes et ils n'arrivent pas toujours à tout, tout déceler.
Et puis, il y a des choses où on voit un bébé, il y a du temps qui s'écoule, je veux dire aussi. Donc, une problématique en démarrage d'allaitement,
n'est pas la
bah,
même.
C'est pas la même quelques mois après. En fait, quand ça perdure, on se dit, bon, là, vraiment,
ouais.
C'est pas normal que ce bébé avale autant d'air, par exemple. Enfin,
ouais.
Voilà.
Oui, et puis typiquement, un reflux peut ne pas être douloureux à J20 et puis l'être à J30, en fait.
Exactement.
Parce que ça peut décompenser d'un coup. Donc, c'est toujours intéressant de suivre le truc. Ça va très, très vite avec les bébés. OK, donc ça, c'était le déroulement d'une séance. Et puis sur les séances de suivi, bah, après, c'est...
On refait le point. Tout dépend de ce qui a été convenu à la fin, à l'issue du bilan. Est-ce qu'on a décidé... juste orienter un autre professionnel. Est-ce qu'on a donné déjà des sollicitations à faire avec le bébé? Donc on réévalue en fait la situation. Mm-hmm. On regarde ce qu'on a du travail qui a été fait pendant ce laps de temps.
Okay.
Et on complète en fait tout simplement. Voilà.
Qu'est-ce que c'est alors les signes et les symptômes, les observations que je peux avoir moi en tant que parent de mon bébé qui me laisseraient penser que j'ai besoin d'aller voir un orthophoniste qui soit spécialisé dans ton domaine?
Moi je crois déjà. Si on pense à la succion d'un bébé, c'est censé être quand même un équilibre, je pense, entre oui, c'est un geste qui demande du travail,
mm-hmm.
mais ça doit, dans une certaine mesure, être quand même une balance entre guillemets, effort et bénéfice qui doit être
oui.
à l'équilibre, en fait. Et dès qu'on sent que son bébé, c'est coûteux pour lui de s'alimenter déjà. Alors, c'est peut-être quelque chose d'un peu abstrait, mais j'ai quand même l'impression qu'en tant que maman, on sent ça quand son bébé, c'est difficile de manger, en fait.
Ouais.
Parce que si on part à dire bah, la courbe de poids, c'est des choses un petit peu... Voilà,
ouais.
Pour moi, c'est pas pareil. Déjà, se dire, voilà, je sens que mon bébé, quand il est au sein, il est pas confortable, en fait. Il
ouais.
bataille. Je sais pas si tu vois
non,
ce,
ça me parle
cette
très
petite
bien.
Sensation-là.
Parce que quand je forme les ostéopathes à ça, je leur dis, je leur montre des vidéos et je leur dis, essayez de pas trop regarder tout de suite les détails et déjà regarder, est-ce que ça a l'air facile?
Et ça, je trouve que c'est important parce que ça évite aussi de mettre là, vu qu'on est sur un podcast et qu'on essaye de diffuser de l'information, je trouve que c'est important de pas tout de suite mettre dans la tête du parent, regarde sa bouche, regarde ses mains. En fait, parce
que
ça, ça va...
Rôle.
Oui, puis je trouve que ça ouvre des portes du stress, en fait, en tant que maman.
Ouais.
Et de dire, bah, moi, je trouvais que c'était OK avec mon bébé. Mais en fait, c'est vrai que j'avais pas vu qu'il avait les pans serrés et que voilà.
Et que la lèvre allait pas retroussée.
Si c'est OK, la lèvre retroussée, je m'en fiche. Enfin, en fait, tu vois.
Est-ce qu'il arrive à bien s'alimenter?
Est-ce que ce moment-là se passe de façon plutôt sereine, en fait? Première chose.
Ouais, c'est, non, mais c'est un super bon conseil parce que je pense que c'est ça qu'on peut observer facilement sans trop se prendre la tête en tant que parent, qu'on soit au sein comme au biberon.
Exactement.
Est-ce que le
c'est
repas
comment
est un moment normal?
On voit bien. Est-ce que ce bébé, en fait, il bataille pour obtenir sa pitance, en fait? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce qu'il bataille? Est-ce que il s'étouffe parce qu'il gère mal? Est-ce qu'il s'accroche, il se décroche, il se raccroche? On voit bien que tout ça, c'est du même ordre, en fait. C'est la bataille. Je dirais quand même quelque chose qui est important. Un bébé qui semble ne pas avoir cette appétence et cette envie de téter. Ça, je trouve que c'est un signe important. Un bébé qui semble désintéressé, ça c'est un signe je trouve vraiment important. Et un autre signe très important, un bébé qui présenterait des signes d'hypersensibilité. Donc un bébé, dès qu'on approche quelque chose de sa bouche, en fait c'est trop, ça donne des haut-le-cœur, c'est inconfortable. Parce que là c'est des signes quand
un
même
peu de rejet, quoi.
Voilà. Donc en gros, je m'y intéresse pas ou c'est too much pour moi. Et là, je pense que ça nécessite, ça ne veut pas dire qu'il y a un trouble, ça veut dire qu'il peut-être qu'il va falloir accompagner ce bébé pour que ce soit plus confortable pour lui.
Et donc, c'est pas utile qu'on rentre vraiment dans les détails parce qu'après, c'est au pro de
le faire. Je pense que c'est au pro ensuite de le faire et que dès lors qu'il y a cette petite truc qui s'allume de dire « moi, je suis pas sûre
okay. ».
En tout cas, ça, ce sont des motifs de consultation en orthophonie qui sont tout à fait adaptés.
Mm-hmm.
Ça peut être d'en parler avec un professionnel que vous allez pouvoir voir peut-être plus rapidement aussi, bien sûr. Non, mais je ouais. suis consciente de la réalité, en fait. Ouais. Je trouve que sur le sujet d'allaitement, ce qui compte, c'est de pouvoir trouver quelqu'un sur qui s'appuyer rapidement.
Ouais.
Et la justement, clé, c'est la rapidité.
Pour les professionnels qui nous écoutent, parce qu'il y a aussi beaucoup de professionnels, oui. en fait, qui écoutent le podcast, et en particulier les épisodes experts, qui parfois peuvent être un peu abstraits pour les parents. Ouais. Pour les professionnels, est-ce que tu dirais la même chose comme signe d'appel pour envoyer chez l'orthophoniste ?
Alors, je rajouterais des petits signes un peu plus...
Alors, les parents, bougez vos oreilles, mettez plus 30 secondes.
Non, je rajouterais la bouche ouverte. Ouais. Même en dehors des moments de succion, ouais. en fait, clairement, ouais. en tant que premier signe, ça doit interpeller un bébé qui est constamment la bouche ouverte.
Ouais.
Il faut aller regarder, voilà, ça, clairement. En gros, c'est vraiment ouais, l'hypersensibilité, la bouche ouverte et pas de réflexe de succion. Ouais. Ça, c'est des choses, ça doit alerter.
Ça doit alerter. C'est quoi les causes de ces problématiques que toi, tu viens retrouver en consultation d'orthophonie pour un bébé et sa succion ? À quoi c'est lié, en fait ?
Très souvent, on a la prématurité. Donc, c'est des bébés qui, forcément, vont pas avoir la maturité nécessaire de pouvoir gérer le fait de téter, de déglutir, de respirer, pouvoir coordonner tout ça, ouais. en fait, dans le bon temps.
Oui, parce que c'est trois mécanismes, succion, déglutition, respiration, qui ont chacun leur spécificité et ils doivent se coordonner entre eux pour que ça se passe bien.
Donc, en fait, c'est énorme. En vrai,
et ça se passe tard dans la grossesse.
Et ça se passe tard.
On avait fait un épisode sur la prématurité et elle expliquait que c'était finalement sur la fin de grossesse,
exactement.
Après 35 semaines,
exactement.
32-35, que ça
semaines.
Se...
Exactement. Donc ça, c'est vraiment la première cause qu'on peut avoir. Et puis c'est des bébés en fonction du degré de prématurité qui ont eu des débuts de vie même très particuliers.
Moins, ouais.
Donc quand on parlait tout à l'heure d'hypersensibilité, ces petits bébichous-là, ils ont eu quand même leur lot de distimulation en fait, dès le départ. Donc, c'est des bébés, pour moi, qui vont avoir besoin d'être coucounés, accompagnés, et des parents, bien sûr, qui vont avoir besoin d'être très, très vite mis dans la situation. J'en ai pas parlé tout à l'heure sur le déroulé de la séance. J'ai essayé d'expliquer qu'on regardait beaucoup les dysfonctionnements. Mais en vrai, je tiens à dire aussi qu'une grande partie de notre travail est de pouvoir aussi montrer ce que le bébé sait très bien faire. Mmh. Et je trouve que ça, c'est très important. De prendre le temps d'identifier, déjà pour nous, la qualité de notre prise en charge, parce que si je sais ce sur quoi ce bébé est compétent, forcément, je vais pouvoir faire du travail efficace. Mais pour ce parent qui est en face, lui dire, regarde, tu vois, ça, il le fait bien. Ça, il le fait super bien. Et toi, regarde ce que tu fais super bien avec ce bébé aussi. Et je suis certaine que ça, pour la parentalité de manière générale,
et on s'appuie là-dessus pour
l'allaitement, pouvoir dire, good job, là, tu vois ce que tu fais, c'est très bien. C'est un cercle vertueux et positif. Donc voilà, la prématurité, première cause. Ensuite, on a quand même les causes anatomiques. Donc les freins restrictifs buccaux, les fentes labiopalatines. Donc tout ça, alors en fonction des formations de chaque professionnel aussi, bien sûr. Mais forcément, je vais avoir des difficultés à mettre en œuvre ma succion si j'ai des restrictions et si anatomiquement j'ai pas tous les organes au top de leur mobilité, de leur efficacité, c'est logique.
Donc typiquement un frein bien restrictif sous la langue, s'il empêche la langue de faire le mouvement qu'elle doit faire,
évidemment.
Il l'embête. Une fente labiopalatine alors que vous êtes censé être étanche entre la bouche et le
exactement.
Nez pour coller votre langue là-haut et déglutir. Si à chaque fois que vous déglutissez, ça va dans le nez, c'est pas optimum.
Exactement, le bébé va se fatiguer, etc. Ouais. Ou va faire des fausses routes, voilà. Donc voilà. Ensuite, on a quand même des bébés sans diagnostic peut-être précis, mais avec des profils soit hypotoniques, soit hypertoniques. Et là, pour le coup, je pense que toi, en tant qu'ostéo, ça va te parler, en tant que tous les thérapeutes manuels aussi. Et forcément, bah, ça va s'appliquer à la zone orale, à la sphère orale. Donc, tous les effecteurs de la déglutition et de la succion vont aussi être impactés. Donc, nous, on va avoir aussi ce travail-là sur la succion de régulation, en fait, dans un sens ou dans un autre.
D'accord.
Et puis, on a des troubles de la succion que je dirais isolés, en fait. Ou, bah, en fait...
on ne sait pas trop.
Je ne sais pas trop. Et je n'ai pas la connaissance pour savoir, mais l'examen, l'observation, l'analyse clinique vont permettre de me dire, bon, voilà, peut-être que là... il va falloir travailler sur les réflexes archaïques. Peut-être que là, voilà, je vais travailler avec des outils pour essayer de booster et de faire en sorte que cette succion puisse être plus efficace.
Ouais, et puis tu vois, moi je vois ça de mon point de vue d'ostéo et de thérapeute manuel. Du coup, typiquement, une mâchoire, une cervicale coincée dans les démarrages, ça peut amener à ce problème de succion, mais comme je dis toujours, une fois qu'on a réglé l'origine du problème, est-ce que la fonction derrière arrive à se remettre complètement en place ? Oui, non. Et si la réponse est non, bah, en fait, on a besoin de quelqu'un en complément,
oui,
en fait.
Exactement.
Pour l'éduquer.
Mmh. Oui, et c'est pour ça qu'on est complémentaires, pour le coup. Parce que forcément, là, on est en train de parler quand même de quelque chose d'assez technique. Et c'est bien des mouvements du corps, en fait.
Ouais.
Donc, bien évidemment, moi, j'ai pas les compétences d'un thérapeute manuel. C'est pas notre profession, c'est pas notre qualité. Et c'est sûr que avoir un bébé, enfin, je vais pas hésiter à référer, en tout cas, vers un thérapeute manuel, parce que, en général, vraiment, le vrai déroulé des choses,
oui,
franchement,
ils ont déjà
allé.
Ouais, bien sûr, parce que aujourd'hui, c'est devenu assez commun
et c'est super.
De faire voir son bébé par
un thérapeute
manuel.
Et c'est super, parce qu'en réalité, si malgré la thérapie, en fait, manuelle, le bébé est toujours en difficulté, c'est qu'il faut creuser plus loin,
ouais,
je dirais. Et c'est pareil pour les consultantes en lactation. Moi, comme je l'ai décrit là, je vais m'orienter beaucoup sur le bébé. Je vais m'axer sur bébé. Je tiens vraiment à redire encore que tout ce soutien aux mamans, aux parents, je trouve qu'il est essentiel,
ouais,
vraiment. Donc, j'espère être suffisamment à l'écoute. Mais vraiment, ce temps d'écoute et d'accueil et d'écouter les inquiétudes, etc., je trouve qu'il est important.
Ouais.
Mais je n'ai pas bien sûr, j'ai des connaissances et des formations sur l'allaitement, mais je n'ai pas les connaissances d'une consultante en lactation
sur la lactation, etc. Chacun son cœur de métier.
Donc, clairement, je disais tout à l'heure, quand j'observe un bébé au sein, je me garde bien de dire quelques commentaires que ce soit sur la position au sein, en fait, ça n'est pas mon travail. Et si je vois que c'est pas harmonieux, j'oriente, en fait. Et je veux dire à maman, là, je pense que vous devriez creuser avec quelqu'un dont c'est vraiment le travail pour vous guider.
Ouais. Ouais, non, mais c'est très clair. Alors, on a dit prématurité, contrainte anatomique.
Exactement.
Qui empêche que le mouvement se fasse bien. Hypo-hypersensibilité.
Oui.
Si vous voulez revenir là-dessus, je pense que ça va se rejoindre. On avait fait un épisode avec Marie Ruffier sur hypo et hypersensibilité. Donc, je pense que les symptômes vont se rejoindre. C'est l'épisode 25 ou 26, je ne sais plus. Bon, vous le retrouverez. Hypo-hypersensibilité et allaitement. On a dit les troubles isolés, voilà,
en
dont
gros,
on ne connaît pas vraiment l'origine. Mais bah, comme je dis, ça peut être une tension ostéo à la base qui a généré un problème. Et aujourd'hui, il faut rééduquer ce truc-là parce que le corps n'a pas réussi à utiliser ce qu'on lui a proposé en libérant les tensions pour rétablir la fonction. Ok, très bien. Donc, une fois que tu as trouvé la cause, que tu as observé les signes et symptômes, que tu as travaillé pendant ta consultation, c'est un travail de rééducation, en fait.
C'est un travail de rééducation.
En orthophonie, comme les kinés, vous rééduquez, en fait, au niveau de l'oralité.
Oui.
Est-ce que les parents repartent avec des choses à faire à la maison ou est-ce que tout se passe en consultation? Parce que je sais que vous les voyez de façon récurrente.
Exactement. Beaucoup de choses se passent en consultation. Mais bien évidemment, pour moi, la rééducation, c'est un partenariat, en fait. Et il ne s'agit pas de venir déposer son bébé, il va être réparé et au revoir. Je pense qu'il n'y a aucun soin qui fonctionne comme ça, en fait, en réalité. Nous, en tout cas, clairement... Alors, j'aime pas dire qu'on donne des exercices, et ça, je l'entends tout le temps. Et j'aime pas trop cette notion d'exercice parce que c'est très injonctif, je trouve. C'est très devoir, c'est très scolaire.
Ouais, c'est très devoir.
On peut dire que je joue sur les mots, mais en fait, tu repars avec l'idée qu'il va falloir faire ça vraiment pour que ça aille mieux. Et j'aime pas cette notion-là, parce que ça peut laisser entendre aux parents que c'est à tout prix, à n'importe quel prix. En fait, il va falloir le faire, et non, en fait. Donc, j'aime mieux dire qu'on va proposer des sollicitations. Vraiment, on va essayer de proposer la fenêtre dans laquelle l'enfant est disponible pour les recevoir, en fait.
Oui,
parce que sinon, ça sème aucune graine positive. Donc, on va donner donc des propositions. Ça peut être des massages, ça peut être des postures. Voilà. Donc oui, il y aura des choses, entre guillemets, à faire, mais... C'est pas des exercices et c'est pas tant de fois par jour pendant... Voilà, ça, vraiment, c'est pas OK.
Il faut que ça reste ludique. Ça, c'est une notion qui... Enfin, moi, je me suis formée au réflexe archaïque un peu cette année. Et c'est vrai que c'est une notion qu'ils expliquent vachement bien. Je trouve c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait la disponibilité pour la personne et le corps pour pouvoir intégrer. Parce que sinon, l'exercice ne sera qu'un espèce de stress, en fait.
En fait, c'est contre-productif.
Ça
fait même l'effet inverse, en fait.
Ouais, bon,
donc, chez un petit bébé hypersensible, venir à tout prix vouloir le désensibiliser... En fait, tu renforces l'hypersensibilité parce qu'à ce moment-là, c'était trop.
C'était pas son moment.
Et c'était pas le moment. Donc, on doit être très juste dans l'intensité de la pression et tout ça. C'est du temps pour apprendre aux parents à faire, en fait. Et moi, mon travail, c'est tout ça, en fait. C'est de leur dire, voilà, je vais vous montrer une façon, on va faire ensemble. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est pas comment moi j'ai fait. En fait, ce que j'ai fait là,
c'est qu'on s'en fout, en fait, presque.
Mais comment toi, tu vas le faire? Ah, toi, t'es pas à l'aise avec ça. Ok, il faut que je trouve un autre outil.
C'est comme si, en fait, j'avais un trousseau de clés énorme avec plein d'outils. Et c'est la bonne pour ce bébé. Et celui qui vient après, qui semble avoir la même problématique, la clé ne marche pas. Ouais. Parce qu'en fait, pour ce parent, toucher dans la bouche de son bébé, par exemple, c'est pas confort. Ok, on doit trouver autre chose. En fait, pour moi, il faut trouver ce qui est vraiment adapté à l'équipe. En fait, maman, papa, maman, enfin, parents, bébé, et c'est ça qui fonctionne, en fait. Donc oui, je trouve que c'est important aussi que les parents repartent avec des choses à faire parce que ça les renforce dans leurs compétences. Et il n'y a rien de plus beau, je pense, pour un parent de se dire « Ok, ça, c'était compliqué, on a réussi ensemble. En fait, j'ai aidé mon bébé. » Moi, je leur dis toujours « Je fais rien, en fait. Mais si. Mais non. Enfin, je vous ai montré la clé, c'est vous qui l'avez utilisée, en fait. » Donc ça, je trouve que c'est chouette. D'être dans ce partenariat-là. En
tout cas. Ok, donc ils repartent avec des idées en fait de sollicitations, de choses à mettre en place.
On a fait ensemble, on parcouru ensemble. Je les ai fait avec le bébé pour m'assurer que le bébé c'était ok. Et je laisse jamais repartir avec quelque chose qui semble pas ou le parent si le parent est trop mal à l'aise ou si le bébé était pas confortable. On se revoit et on reprend le temps de faire. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on se revoit en fait. Alors ça veut pas dire
si ça correspond toujours.
Exactement. Et comme on est dans de la rééducation, tout ça est très mouvant. Parfois ça va très vite en fait. On se revoit et quelques semaines plus tard, 15 jours plus tard, en fait, ça y est, ça va mieux. Alors que moi dans mon plan de soins, j'avais projeté que peut-être faudrait travailler une autre chose et en fait pas nécessaire. Donc tout ça bouge beaucoup et donc on se revoit mais dans une fenêtre de temps.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Voilà, 10-15 jours pour des tout petits, pour quand même laisser au corps le temps. Quand même aussi.
Oui, malgré tout, ça va vite.
Mais c'est pas vite.
15 jours, ça change tellement.
Et pour des troubles de la succion, il n'y a pas besoin de 30 séances. Enfin, voilà. Ça aussi, je tiens à le dire parce que pour certaines personnes qui connaissent pas exactement notre façon de travailler en tant qu'orthophoniste avec des tout petits, il y a encore l'image qui est aussi une facette de notre métier. Moi, je pratique plus du tout ça, mais qui est, on voit les patients une fois par semaine pendant des mois, des années. C'est une autre façon de travailler qui n'est pas adaptée chez le tout petit.
Non.
Donc, il faut pas avoir peur, entre guillemets, de consulter en orthophonie avec l'idée que, j'aurais pas le temps. En plus, elle est hyper loin. Va falloir que j'aille la voir toutes les semaines. Du coup, je baisse les bras. Parfois, un bilan qui met le doigt sur une problématique, et quelques séances, en fait, ça y est. Sans se voir toutes les semaines. Donc, ça aussi, je trouve que c'est important parce que, c'est pas connu.
Dans un postpartum, plus ou moins facile, parce que finalement, quand on consulte, c'est que ça va pas.
Et hein, quand il y a de la succion, c'est que c'est pas facile, voilà, clairement.
C'est vrai que les journées sont parfois pas forcément évidentes.
Exactement.
Déjà quand tout va bien. Mais quand en plus, il y a quelque chose qui merde, on va dire, les journées avec un bébé, ça peut ressembler à une longue répétition de choses qui se passent pas terribles. Et donc, rajouter à ça le rendez-vous à l'autre bout, et si et ça, ça peut être décourageant. Donc, c'est important de rappeler qu'en effet, sur ces problématiques-là, et puis ça, les bébés, quand ils se remettent, ça va très vite.
Ça va très vite.
En fait, parce qu'ils ont des capacités d'auto-guérison tellement puissantes par rapport à l'adulte. C'est dingue.
Ce qui est très gratifiant, nous, dans nos prises en charge. Parce qu'en fait, on a l'impression être super efficace, mais fait du bien.
Ouais,
parce que si on fait ce métier, c'est pour aider, en fait.
C'est génial. Donc, et puis moi, c'est ce que j'aime aussi dans la pédiatrie, c'est que voilà, on règle un sujet, et puis après, on passe à autre chose.
Exactement.
Enfin, ça avance. Alors, de l'intérêt de la pluridisciplinarité dans tout ça, comment toi, tu travailles avec les consultantes en lactation, les thérapeutes manuels, etc.
Comment ça se passe? Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, souvent, ils ont déjà vu, en fait. C'est vrai que c'est rare que ce soit moi qui oriente, ça arrive, hein. Mais bien souvent, et en fait, ils ont déjà vu un thérapeute.
T'arrives un peu en bout de course.
C'est vrai. Moi, vraiment, parce que aussi, je pense
c'est le contexte aussi.
Oui, et je pense que là, depuis plusieurs années où je me suis vraiment spécialisée dans le domaine, je suis identifiée aussi par pas mal de professionnels. Donc, j'ai la chance d'avoir un réseau qui est bien construit. Mais des orthophonistes qui peut-être commencent dans ce domaine-là ou ont un peu moins de pratique, c'est important de dire qu'on est tous au service du bébé, quelle que soit notre formation. Et ne pas avoir peur d'orienter en fait un autre professionnel quand on sent que c'est notre limite.
Moi, c'est hyper important.
Moi, c'est toujours super bien accueilli par les parents quand je dis, moi là, Je ne sais pas. Allez voir.
Oui, il faut là, savoir ça dépasse. Dire où est-ce qu'on ne sait plus.
Je pense que ça, c'est très important. Je pense que c'est, il faut pas avoir peur non plus du regard complémentaire d'un autre professionnel où on peut se dire, bah, en fait, ce professionnel, peut-être, il a déjà donné des exercices. J'entends ça parfois. J'entends, mais j'ai déjà vu tel professionnel, il m'a déjà donné des exercices. Alors, pourquoi je vais venir vous voir? Donc, je pense que c'est important de garder en tête que on a tous, c'est le même bébé au centre, mais on a tous un regard et un œil vraiment différents. Ouais. Et un exercice qui peut sembler pareil, juste expliqué avec d'autres mots. Et parfois, on le voit, hein. Par exemple, sur les suivis freins.
Ouais.
Typiquement, on peut avoir l'impression que les choses se recoupent un peu, mais on voit que, bah, en fait, telle personne a donné tel exercice, je revois le bébé, je reconnais même pas l'exercice, en fait. Ouais. Mais parce qu'entre-temps, il s'est fait digérer, on va dire, par la personne. Et en fait, il faut réexpliquer autrement, il faut donner une autre clé. Et je trouve qu'il faut vraiment voir... voilà, on est tous au service du bébé, avec nos outils, nos regards, on a tous à apporter. Je pense quand même qu'il y a une limite aussi à ça, et que c'est bien de pas non plus s'éparpiller entre cinq ans. C'est vrai que c'est
dans
dur.
Dans l'idée, justement, de respecter aussi la période. Et...
Mais oui, il y a des bébés, enfin comme n'importe quel corps, je pense, il y a des temps d'intégration quand même qui sont importants, et courir à voir... trop de professionnels, je pense que ça n'a pas de sens non plus. Mais dès lors que on en voit un qui dit, je pense que ça serait bien d'aller voir quelqu'un d'autre, bah écoutez, faire confiance aussi aux professionnels qu'on a en face, si ça résonne en nous, bien sûr. Si on sent qu'on a l'impression d'être tiraillé de tous côtés, on peut dire, ok, moi je vais me concentrer sur cette thérapie-là. Et j'attends, c'est possible aussi. En fait, on l'a dit, ça va très vite chez les bébés.
Et sur ces problématiques-là, on peut rapidement en fait se retrouver un peu baladé parce que chaque professionnel regarde ça, comme tu le dis, de son point de vue à lui. Donc moi, d'un point de vue purement mécanique, toi d'un point de vue d'intégration sensitive, sensorielle et de rééducation, la consultante en lactation du côté lactation, etc.
Bien sûr.
Et donc chacun fait évidemment le mieux qu'il peut avec ce qu'il a.
C'est clair.
Mais parfois, la réponse, en tant que professionnel, on peut penser qu'on l'a, alors que quelqu'un d'autre a une meilleure clé pour faire avancer le problème. Donc dans ces cas-là, moi j'ai envie de vous dire, en tant que parent, quand vous sentez que ça vous fait un peu balader, juste prenez un tout petit peu de recul et dites-vous, ok, tout le monde est bien intentionné dans cette affaire, mais moi, qu'est-ce qui me semble le plus juste à cet instant-là pour mon bébé? Parce qu'en général, quand même, on est bien câblé au moment où on a nos bébés dans les bras et on sait de quoi ils ont le plus besoin.
Moi je pense que voilà, faut rester au centre des prises de décision, parce que les professionnels, bien sûr, sont dans l'idée de vous aider. Mais c'est vous, au fond de vous, qui devez sentir, ok, moi là, même si on me dit que là, la succion est pas parfaite, mais en fait, moi ça va avec mon bébé. Bah, c'est ok, en fait, si jamais, parce que souvent, ce qui est en arrière-plan quand même, que j'ai pas dit, c'est que quand vous commencez à regarder sur Internet, trouble de la succion, etc., très vite, il y a des mots qui font très peur, trouble de l'oralité. Et en fait, ça, encore une fois, ça ouvre la porte de, ok, là, mon bébé, si je m'occupe pas de ça, qu'est-ce que je suis en train de rater? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et en fait,
on n'en sait rien.
Alors, il y a quand même des études qui montrent que c'est prédictif quand même de signes d'alerte. Et ça met
le stress est un facteur de...
Ouais. Et quand même de dire que c'est des bébés, on va peut-être avoir un peu plus de précautions, de surveillance sur la suite du déroulé alimentaire. C'est ce que je veux dire. En fait, ne pas banaliser l'étape suivante si, en plus, après la diversification est un peu compliquée. Si, voilà. Juste avoir ce regard attentif. Mais ça présage de rien, en fait.
Ouais. Mais par contre, est-ce que, parce que j'ai cru que c'était ça que tu disais, est-ce que le stress généré, tu vois, par ce genre d'informations qui nous arrivent et qui, en fait, sont pas adaptées à notre cas, est-ce que le stress généré par ça, de se dire, bah, mon bébé, il a pas une succion parfaite, et s'il a pas une succion parfaite, peut-être qu'il va avoir des troubles de l'oralité, est-ce que ce stress-là peut amener, tu vois, aussi à la problématique?
Je pense que j'ai pas la connaissance d'études sur ça, sur les effets du stress. Peut-être que ça existe. En revanche, ça me paraît vraiment évident que la pression sur l'alimentation,
c'est jamais bon.
C'est jamais bon, et ça se passe dès tout petit.
Oui, en tout cas, une fois que les problèmes sont là, le stress qui est généré vient rajouter encore
exactement,
du problème par-dessus.
Plus on va se détendre autour de ça, mieux ce sera. C'est évident, même c'est très facile à dire.
Ouais, c'est très facile à dire. Mais bon, c'est vrai que la succion perfecto parfaite, en fait, bon, nous, au cabinet, c'est complètement biaisé, évidemment, on les voit pas, mais c'est quand même pas non plus ça. Ça court pas les rues,
ça
quoi.
Ça court pas les rues. Je pense qu'il faut quand même le dire. Ouais. Même entre nous, ortho, on disait tout à l'heure.
Ouais. Moi, mon premier, il avait une succion complètement hypotonique.
Voilà.
Je vais vous dire, au niveau oralité, on est tranquille. Il nous a fait une phase où il pouvait pas manger les légumes oranges. Ça lui est passé.
Exactement. Et les bébés d'ortho aussi, les enfants d'ortho aussi, ont des freins, ont des périodes de régression au niveau de l'alimentation, phases d'opposition, et c'est normal, en fait.
Oui, de ne pas faire d'une petite problématique,
exactement,
d'une grande,
Si on voit que les difficultés s'enchaînent, évidemment, il faut consulter. Mais heureusement, ils n'ont pas tous des grosses galères, quoi. Enfin,
oui, et je crois aussi, quand même, il y a cette... moi, je sens ça, en tout cas, dans ma position d'orthophoniste, cette angoisse de diagnostic du trouble de l'oralité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me consultent, entre guillemets, juste pour savoir si leur enfant a l'étiquette ou pas, en fait. Mm. Et c'est très compliqué, je trouve, parce que... Et c'est pas productif, en fait. Mmh. Parce que moi, j'essaie vraiment de mettre de l'énergie à expliquer. Mais là, on cherche à savoir aujourd'hui qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mettre cette étiquette, finalement, à quoi bon? Alors, parfois, bien sûr, le diagnostic...
ça permet aussi de se dire, OK, maintenant, je comprends.
Enfin, oui, mais en fait, quand on est chez un tout petit comme ça...
C'est trop tôt.
C'est trop tôt, en fait, voilà. C'est trop tôt, c'est plaquer quelque chose, dire que la suite va être compliquée, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Ça ferme des portes, en fait... voilà, d'ouverture de solution. Parce qu'on a dit, bah, de toute façon, on a étiqueté, il y avait un trouble, quoi.
Hmm. Ouais.
C'est comme dire, il y a des freins. Donc, de toute façon, il y a des freins, tout va être compliqué. Bah, en fait, bah, peut-être pas.
Non, et puis, il y en a qui s'en sortent étrangement bien avec des trucs anatomiques qui sont quand
même costauds. Exactement.
Tous les cas existent. Ouais. Encore une fois, ce qui est important, c'est la fonction. C'est comment ce bébé se démerde, comment ça vient impacter votre allaitement ou votre non-allaitement ou votre quotidien. Si tout va bien dans le meilleur des mondes, dire foutez-vous la paix, soyez juste attentif à ce qu'à un moment, ça vient entacher votre vie.
Exactement.
Et alors maintenant, la question à 10 000.
J'ai peur.
Non, j'en ai une autre avant. Avant la question à 10 000, là, on a parlé beaucoup bébé, succion, allaitement, parce qu'évidemment, c'est notre sujet dans Milk Checker. Donc, vous aurez compris qu'en fait, on s'en fiche que le bébé soit allaité ou pas allaité.
Bien sûr.
Parce que s'il est au biberon, c'est et que s'il y a même un souci sur le changement d'outil, c'est le même topo. Faites consulter votre bébé si vous sentez qu'il a des difficultés à être alimenté. Et en tant que parent, le facteur 1 que vous devez regarder, c'est est-ce que le repas, c'est serein? Et ça, c'est quand même, je pense, une super chose
message
à regarder.
Clé du jour.
Et ouais, mais en fait, ça marche aussi avec les pros. C'est la première chose à regarder. Moi, c'est ce que je leur dis quand je leur montre toutes les vidéos de problématiques de succion. Et quand ils sont en train de me chercher, ouais, mais là, la lèvre ceci, oui, mais là, cela, là, il ne fait pas bien dans le fond de bouche. Et je leur dis, OK, prends du recul. Parfois, ils ne trouvent pas ce qu'il y a qui ne va pas. Je leur dis, OK, on regarde l'image de loin et on se dit, est-ce que ça a l'air cool là? Est-ce que ce repas, il a l'air de bien se passer? Est-ce que tu as envie de mettre ton sein dans la bouche de ce bébé?
Exactement, c'est ça.
Si la réponse est non, alors on va chercher dans les détails ce qui se passe. Donc, ça, je pense qu'on l'aura compris. Mais donc, tu gères aussi à terme les problématiques de diversification.
Bien sûr.
Quand bébé grandit, que cette alimentation qui passe de la succion pure va devenir, alors succion déglutition va devenir de la déglutition sans la succion au moment de la diversification. Quand il y a des problématiques autour de ça, d'un bébé qui commence à sélectionner les aliments, qui n'arrive pas à passer aux morceaux, qui fait beaucoup de fausses routes. On rappelle que le nausée, on en a parlé dans les épisodes avec Marie, donc je pense que c'est pas la peine de répéter outre mesure, mais le nausée, il est normal dans un premier temps.
Bien sûr.
Il recule au fur et à mesure.
Des sollicitations,
de cette diversification qui se met en place, de la purée qui est une texture différente, si on passe par la purée, qui est une texture différente du lait, je mets ma main dans ma bouche et je viens me la carrer au fond de la gorge, du hochet que je mets un peu trop loin, qui me déclenche un petit réflexe et c'est OK, à celui qui, finalement, à la moindre sollicitation, se retrouve à avoir un gros nauséeux, voire plus à vomir et qui ne peut rien mettre à la bouche.
Oui, et je pense que là, pour ces questions-là, c'est vraiment important de garder en tête que du coup, c'est vraiment les sollicitations qui créent la fonction, c'est l'expérience qui crée la fonction. Donc le bébé, pour pouvoir arriver au stade de « je mange avec plaisir et de façon autonome », etc., il s'est entraîné pendant de nombreuses semaines, en fait.
Oui.
Et comme on tolère, on comprend tout à fait parfaitement qu'un enfant passe pas de tout petit bébé à je cours, je marche, c'est exactement pareil pour l'alimentation. Et ça, c'est beaucoup plus abstrait en général comme concept.
Mais parce qu'on veut qu'il mange, je te dis.
Il faut qu'il grossisse, qu'il prenne du poids, qu'il mange bien. Et en fait, tout ça, ça demande des sollicitations. Donc ça demande de l'expérience, donc ça demande des occasions d'expérience. Et en plus, des expériences positives. En fait, il faut qu'il soit en réussite. Donc, ça suppose de pouvoir proposer quelque chose qui est à hauteur de ses compétences. Mmh. Et ça, parfois, en tant que parent, c'est décalé. Non pas parce que le parent n'a pas les compétences, mais parce qu'il est noyé par les injonctions extérieures
à faire
de
ceci.
Quelle quantité. Ah bah là, il a tant de semaines et tant de jours. Ouh là là, il faut donner de la carotte. Parce que, mais en fait, quoi? En fait, ça, on a perdu, je trouve, quand même. Donc,
on a perdu un peu le bon sens.
Ouais. Je trouve qu'on a perdu le bon sens. Donc, les parents sont aujourd'hui, c'est bien, il y a plein d'informations, mais en fait, ils en ont presque trop. Et entre tous les parents qui ont trop d'informations et qui veulent juste tellement bien faire, en fait, que ce pauvre bébé au milieu, bah, en fait, il sait plus, il n'y arrive plus. Il n'a pas le temps, en fait, d'avoir les expériences. Pour toutes ces problématiques-là, des bébés qui sont en difficulté, pour le coup, la réaction humaine, elle est de dire, bon, bah, je lâche l'affaire parce qu'en fait, ça marche pas. Alors que peut-être ce bébé, justement, il aurait besoin d'être accompagné. Pour pouvoir donner aux parents les clés de pouvoir le solliciter juste à son niveau de possibilité, de se dire, bah là, tu vois, on va peut-être pas encore être dans l'alimentation tout de suite. Mais peut-être qu'on va devoir reprendre, justement, un travail pour le désensibiliser dans sa bouche avec d'autres textures, en fait. Mais en fait, quand tu fais ça, je t'assure que t'es en train de le préparer à manger. Si là, tu donnes pas à manger, mais je te garantis que ça va le faire. Mais pouvoir être accompagné sur ça, je pense que c'est... là, on a notre rôle en tant qu'orthophoniste, bien sûr, sur ces périodes-là qui sont parfois un peu compliquées.
Ok. Non, mais je pense que ouais, c'est important de le rappeler. Et puis, de se dire que voilà, la diversification, il y a aucune notion de performance dans un premier temps, de quantité, etc.
Et aucune méthode miracle aussi.
Aucune méthode miracle, voilà. La diversification menée par l'enfant. On en a fait un épisode avec Marie Ruffier, justement, pour dire que c'est pas la méthode de diversification
parfaite. Exactement, ça c'est très important.
La méthode de diversification parfaite, c'est celle qui convient à votre bébé à l'instant T où vous commencez ou vous commencez pas, d'ailleurs. Donc, la priorité, c'est d'observer. Voilà, c'est observer votre bébé. Est-ce qu'il a l'air d'être intéressé, pas intéressé? Exactement. Oui, non. Et si jamais il a l'air d'être en difficulté passé un certain temps et qu'en plus, il met rien à la bouche, enfin voilà, il y a un sujet avec son oralité, alors,
elle est consultée. Et puis parfois, c'est toujours la même chose, hein, je vais me répéter. Ça va être parfois juste si vous, ça vous stresse. En fait, si vous. Moi, j'ai parfois des mamans, j'ai vu des bébés pour problématiques de succion. C'est rentré dans l'ordre. Et j'ai des mamans qui me disent, est-ce qu'on pourra se revoir juste à ce passage-là parce que je suis hyper stressée de cette période-là.
Bah, okay, évidemment.
Et en fait, le bébé, il n'y aura aucun problème. Hein. Bah, je laisse ma porte ouverte pour une séance, en fait, de dire, OK, on va juste, vous allez démarrer et puis on va se revoir. Et je vais vous montrer que. Voilà, ça va. Ah, ok, ça va. Mais si on a juste déchargé le stress, en fait, de cette maman,
ça va bien se passer.
La suite va bien se passer. Et ça, je pense que c'est aussi important, pas perdre que notre rôle, c'est, à mon sens, c'est tout ça, en fait. C'est pas juste mettre nos lunettes de rééducateur qui regarde, qui scrute la déglutition du petit bébé.
Ouais.
Et en fait, se dire, tu dois accompagner le système, en fait. Et si, par contre, si jamais ça demande trop, peut-être que cette maman, elle a besoin d'être écoutée, de voir un psychologue, et si c'est vraiment un sujet trop compliqué. Bien sûr, je suis pas psychologue du tout non plus, mais accueillir l'ensemble.
Justement, tu pourras l'orienter.
Exactement, voilà. C'est ça que je veux dire. Il faut accueillir l'ensemble des choses. L'alimentation, c'est un sujet vraiment très complexe. C'est pas juste est-ce qu'on a les compétences pour avaler ou pas.
Non.
Et ça touche quand même d'autres choses, nos propres histoires en général aussi, alimentaires.
Ouais.
Donc, les pressions qu'on a, l'environnement familial, des modes de garde, enfin, je pense que ça touche tellement de choses qu'il faut, prendre le temps, en fait, d'accueillir ce qui se passe et d'accompagner le bébé dans le temps. Encore une fois, il a le temps, ce bébé, de manger. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien.
Pas du tout. C'est juste que ce n'est pas qu'une histoire de langue qui bouge ou qui ne bouge pas, en effet. Et que si le fait qu'il ne se débrouille pas bien, c'est lié à autre chose, bah, c'est notre rôle à nous, en tant que professionnels qui travaillons là-dedans, de pouvoir orienter correctement.
Exactement.
Pour que la personne trouve sa solution qui lui convient. Ouais. Ok, donc la question à 10 000.
Ça y est.
Angèle, comment on trouve des gens qui sont formés comme toi et qui sont disponibles?
C'est une question à 10 000. Je n'ai pas la solution miracle. C'est clair qu'on manque d'orthophonistes pour tous les domaines, pour ces domaines-là encore plus. Faites confiance à vos thérapeutes, parce qu'en général, quand même, ils se créent, je pense, du bouche à oreille de « je connais telle personne », etc. Voilà, la solution est que nous, en tant que professionnels, on forme d'autres personnes. Ouais. Je crois que ça va être mon objectif de 2024.
Ouais, ça y est, c'est posé.
Former les autres. Ça serait super.
Elle l'a dit, elle va être obligée de le faire. Donc voilà.
Voilà ma réponse.
Qu'à suivre son actualité. et Angèle promet aujourd'hui devant moi qu'elle va se bouger pour former les autres.
Et je vais former les autres.
Et même si vous êtes pas orthophoniste, pour au moins avoir les clés, les premières clés pour accompagner ces familles, regarder les choses de près et de loin comme elle sait le faire, et savoir réorienter, bah, en attendant un rendez-vous plus spécialisé. L'idée n'étant pas de faire devenir qui que ce soit orthophoniste un peu bas de gamme, parce que c'est pas le but du tout, mais c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que le problème soit réglé définitivement? Si on avait ça déjà, il y a peut-être plein de problématiques d'ailleurs qui rentreraient dans l'ordre assez facilement.
Et puis regardez toutes les ressources, hein, des sites qui orientent vers d'autres professionnels. Il y a quand même les gens qui forment, listent quand même des professionnels formés. Ça permet quand même de voir un petit peu comment les gens se sont formés. plus quelqu'un, à mon sens, s'est formé à former ses horizons larges, mieux c'est.
Vous ne trouverez jamais, de toute façon, peu importe la profession, deux thérapeutes qui sont exactement pareils et qui prennent le truc de la même façon, parce qu'on a tous des formations complémentaires qui sont différentes.
On est des personnes différentes. Je pense et que quelqu'un qui aurait fait exactement le même parcours que moi sera autrement, parce que ce n'est pas la même personne, pas la même histoire. Ouais. Quand même, le bouche-oreille, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, appeler, en fait, parfois, cette personne-là, elle n'est pas référencée, en fait. Mais en fait, elle est super. Elle est à l'écoute. Elle est curieuse. Elle cherche des solutions pour vous. Et c'est la bonne personne pour vous aussi. Je pense qu'il y a aussi cet effet-là. C'est super de se faire connaître, de vulgariser les infos, etc. Mais c'est pas parce qu'on fait pas de pub qu'on n'est pas bon, en fait, aussi.
Enfin, non, bien
sûr. Il y a aussi ça derrière que je trouve qui est parfait. Il y a des gens, ils sont pas connus. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas connus qu'ils sont pas super bons thérapeutes, en fait, et super bons rééducateurs.
Tout à fait. Et puis, je pense aussi qu'on peut être super bon et ne pas être le bon thérapeute de quelqu'un à un instant.
C'est vrai.
Voilà, même au sein d'une même profession, si on arrivait, quand on s'en sort pas, à réorienter vers quelqu'un de notre propre profession en disant là, je sais pas, je coince, peut-être demandons l'avis de ma collègue. Parce que, je pense que c'est pas aveu de faiblesse, c'est juste se dire que le lien patient-praticien, il se crée à différents niveaux et que parfois, on n'est pas la bonne personne pour ce bébé ou pour ce patient à cet instant-là. Et c'est OK, quoi. Mm. Ok, très bien. Bon, et est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter à tout ça avant qu'on se quitte, Angèle ?
Non, je pense que c'était clair. Je pense que je suis vraiment contente de pouvoir avoir pris la parole, peut-être pas au nom de toutes les orthophonistes, mais je trouve ça chouette de se dire, dans un podcast sur l'allaitement, que les orthophonistes sont là aussi, en fait, pour ça, parce que c'est vraiment méconnu. Et souvent, les parents sont presque décontenancés. Je pensais pas qu'on pouvait voir un orthophoniste, il parle pas. Mon bébé, les orthophonistes s'occupent des bébés, mais vous faites quoi? Donc ça, je trouve que c'est
très méconnu.
Oui, c'est très méconnu, alors qu'on a vraiment toute notre place. Donc j'encourage aussi les orthophonistes qui ne se sentent pas assez confiantes, pas assez légitimes, de se former justement, de venir en stage, en fait, observer des collègues pour se lancer, en fait.
Parce que si vous preniez toutes, vous êtes beaucoup des filles.
Oui, tu peux dire.
Si vous preniez toutes et tous les bébés en charge, en fait, ce serait moins bouché, non ?
Oui, ça serait beaucoup. Non, mais c'est évident.
Bah ouais.
On manque de professionnels sur le territoire de manière générale, mais sur tout ce qui est oralité, encore plus, parce que c'est une spécialité.
Parce que c'est spécifique,
Il faut vraiment se former. Alors, les nouvelles promotions, elles ont dans leur parcours initial beaucoup plus de formation. À mon époque, je suis déjà presque dans les vieilles orthos.
Ouais, ça vient vieille.
mais c'est pas suffisant. En fait, il faut se former toujours, tout au long de notre vie d'ortho. Les orthophonistes, c'est une profession qui se forme beaucoup et tout le temps. Je pense que le mot, c'est ça, Si ça a pu faire germer l'idée que, on est là aussi pour l'allaitement, au sein ou au biberon, et on vraiment, notre travail, c'est l'alimentation dès le tout petit. Exactement.
Bon, parfait, on va rester là-dessus. Si ça vous a donné envie en tant que pro de vous former, c'est génial parce qu'on manque cruellement de vous pour accompagner les bébés. Moi, c'est une vraie galère pour moi en consultation parce que parfois, je sais qu'il y en a besoin et j'ai pas, on ne peut pas réorienter. Et Angèle, elle est très sympa, mais elle est surbookée et elle ne peut pas prendre tout le monde. Et ils font aussi en fonction des urgences qui arrivent, etc. Donc, si ça vous a motivé, tant mieux. Si vous êtes parent et que votre bébé n'a pas l'air serein au moment des repas, maintenant, vous savez qu'il y a une autre piste à aller creuser. Et je me charge de booster Angèle pour qu'elle forme plein de monde et qu'on soit plus en manque d'orthophonistes sur ce sujet. Allez, merci beaucoup Angèle, en tout cas d'avoir pris le temps de venir ici, parce qu'elle est venue à la maison ce matin avec un trop joli bouquet de fleurs, trop sympa, et d'être venue ici, d'avoir répondu à mes questions et de diffuser l'information. Je sais que ça va aider beaucoup.
Merci à toi.
Allez, à très vite à tous et à toutes. À bientôt dans Milkshake. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte
comme au premier jour avec Emma et son titre Blinded en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.